Bienvenue sur cet audio guide consacré à la pause longue. Alors d'abord, c'est quoi une pause longue? Il n'y a pas vraiment de définition. On pourrait s'accorder à dire qu'une pause longue est une pause qui dépasse un temps d'obturation d'une seconde. C'est-à-dire qu'à partir de là, il n'y a plus aucune possibilité de faire une photo à main levée sans avoir de flou, et notamment du flou de bouger. Quand et comment pratiquer la pause longue? Pause longue va se pratiquer naturellement par manque de lumière, si on ne veut pas, par exemple, augmenter la sensibilité ISO. Donc on va avoir une faible lumière, un ISO relativement bas, 100, 200 ISO selon l'appareil photo, et on va travailler aussi avec un diaphragme fermé, F16, F22. Donc la vitesse d'obturation va chuter. Pour éviter le flou de bouger à main levée, on va travailler sur pied. L'idéal, c'est d'utiliser une télécommande ou encore d'utiliser l'application d'un téléphone portable. Pour obtenir des temps de pause assez longs en plein jour, fermer le diaphragme et baisser l'ISO ne suffisent plus. Donc il faut à ce moment-là recourir à un filtre gris neutre qui va absorber l'excès de lumière et faire chuter la vitesse d'obturation. Il y a des filtres Big Stopper ou ND1000 qui vont faire baisser la vitesse de 10IL, c'est-à-dire l'équivalent de 10 vitesses d'obturation. Alors pourquoi utiliser la pause longue? On utilise la pause longue dans une démarche artistique principalement. On va obtenir de jolis filets sur des chutes d'eau qui vont laisser la trace. C'est-à-dire qu'entre le moment où l'obturateur s'est ouvert, la goutte d'eau est tombée et a laissé sa trace avant que l'obturateur ne se referme. On a donc des chutes d'eau qui ont un aspect un peu plus féerique, un peu plus romantique et un peu plus intéressant. Le filtre Big Stopper permet d'obtenir des pauses de plusieurs dizaines de secondes, voire en minutes, même en plein jour. Cela permet d'enregistrer le filet des nuages poussés par le vent, avec des images spectaculaires réalisées au bord de l'eau. On peut avoir des conditions de faible lumière aussi en raison de l'éclairage. C'est le cas par exemple des photos ultraviolettes. On a des lampes ultraviolettes qui révèlent des couleurs irréelles sur des fleurs notamment, ce que les insectes voient mais ce que nous ne voyons pas. Mais par contre, l'intensité des lampes ultraviolettes est relativement faible. Donc on sera amené à utiliser certainement des temps d'obturation relativement bas. C'est le cas aussi pour la photographie infrarouge. Alors la photographie infrarouge donne des paysages en plein été avec des arbres à l'aspect cotonneux, comme s'il y avait neigé. Donc ce sont des photos irréelles, car nous ne voyons pas l'infrarouge. Généralement, on utilise un filtre rouge qu'on place devant l'objectif. Et pareil, ce filtre rouge étant tellement dense, ça va nous obliger à travailler avec des vitesses d'obturation relativement basses. On peut avoir l'effet de zooming ou d'explosum, pardon. L'explosum, c'est en fait, vous allez manipuler la bague de zoom pendant le temps d'obturation, qui est de l'ordre de quelques secondes. Et à ce moment-là, vous allez avoir un effet comme un filtre radial qui part du centre. Donc le centre de l'image est relativement net et tout ce qui est en périphérie de l'image va laisser des traînées vers le milieu ou partant du milieu. Le light painting, c'est une technique également utilisée en pause longue. Ça permet simplement soit de diriger une lampe vers l'objectif et de faire des dessins, des traînées lumineuses pendant la durée d'obturation. Ou alors, on peut aussi se placer dans un local sombre, photographier un sujet en l'éclairant à la lampe de poche. Et donc là, pour éclairer les différentes parties du sujet, il va falloir un certain temps, d'où la vitesse d'obturation plus lente. Pour les orages, il existe des dispositifs qui sont capables de détecter l'éclair et de déclencher l'appareil photo quand l'éclair apparaît. C'est impossible à faire avec le déclenchement manuel, avec le doigt, car on a des réflexes qui ne sont pas suffisants pour réagir à la vitesse de la lumière. Donc on va, à ce moment-là, si on n'a pas de détecteur de foudre, on va utiliser une pause longue. Il suffit de cadrer un endroit où l'orage éclate et de mesurer éventuellement les intervalles entre chaque éclair. Admettons que j'ai un orage qui tombe à peu près régulièrement à tel endroit toutes les 5 secondes. Eh bien, je peux imaginer de poser 15 secondes en espérant capter un ou deux éclairs à l'endroit où j'ai cadré ma photo. Une autre technique également qui est l'open flash. Alors, l'open flash consiste à mélanger un temps d'obturation relativement long et le déclenchement de l'éclair du flash. Avec un éclairage ambiant, je vais capter la trace du sujet en mouvement, par exemple une danseuse, et je vais déclencher moi-même le flash manuellement en appuyant sur le bouton de déclenchement, de manière à figer le sujet et d'enregistrer donc un flou autour du sujet et le sujet figé par l'éclair du flash, soit en début de mouvement, soit en fin de mouvement, ou pourquoi pas au milieu. La photo en pose longue possède également quelques limites. C'est le cas pour les photos d'étoiles. Par exemple, si on veut photographier la Voie lactée, il y a certaines règles à respecter en fonction de la focale de l'objectif utilisé pour ne pas avoir de traînée d'étoiles et bien avoir les points lumineux de chaque étoile. Il y a également une technique qui est le circumpolaire qui consiste à enregistrer la rotation d'étoiles en général autour de l'étoile polaire, et d'enregistrer donc des traînées lumineuses. Mais plutôt que de laisser l'appareil en pose longue, voire très très longue, par exemple toute la nuit, on préfère réaliser des photos à intervalles réguliers pour enregistrer la position des étoiles selon la rotation de la Terre et d'assembler tous ces points lumineux avec un logiciel, soit spécial, soit Photoshop avec certaines fonctions de calque. À main levée, avec une vitesse d'obturation plus lente, vous avez le flou de bouger. Alors le flou de bouger dédouble l'image, ce qui n'est généralement pas souhaité, mais par contre, certains photographes utilisent ce flou de bouger pour obtenir des images créatives, un peu fantomatiques. Il suffit alors d'utiliser une pose longue ou lente et de bouger l'appareil en même temps, soit de gauche à droite, façon panoramique, ou de haut en bas, ou de façon rotative. Vous constaterez que la pose longue est généralement limitée à 30 secondes sur les appareils. À cela, il existe une raison, c'est que la pose longue va provoquer un échauffement du capteur et une montée du bruit thermique. Le bruit thermique est différent du bruit dû à la montée en ISO et il se traite en superposant une vue noire réalisée dans les mêmes conditions de manière à supprimer l'apparition de petits points blancs. Cette technique est très utilisée, notamment en astrophotographie. Il existe bien sûr la possibilité de dépasser le seuil des 30 secondes en utilisant les modes de pose B et T. La pose B permet d'ouvrir l'obturateur en appuyant sur le bouton du déclencheur et de fermer l'obturateur en relâchant celui-ci. La pose T permet d'ouvrir l'obturateur avec une première pression sur le déclencheur et de refermer l'obturateur avec une deuxième pression. Les modes B et T sont accessibles avec une télécommande annexe. C'est la fin de cet audio guide. Alors je vous invite à aller voir sur internet les nombreuses possibilités qu'offre la pose longue avec des exemples de circumpolaires, de photographies d'orage, de filets de chute d'eau, de nuages, de vagues avec au bord de la mer, avec des rochers, etc. Ce qui vous donnera de nombreuses inspirations pour créer de nouvelles images.